envie aux gens, aux enfants et puis aux plus grands de venir en forêt aussi, de découvrir la forêt.
Voilà, exactement. De sortir de chez soi et d'aller découvrir la nature tout à fait banale qu'on a autour de chez soi, la haie autour de la maison, la forêt la plus proche, un bord de chemin. On était un groupe de jeunes profs et instits des années 70 et on venait de commencer à lire les premiers livres qui traitaient de la destruction de la nature, qu'on couvre aujourd'hui sous le nom d'écologie, mais qui à l'époque, et je ne sais même pas si le mot écologie existait dans son acception actuelle. On ne savait pas très bien par quoi commencer, et l'idée était tout simplement de s'adresser aux enfants, parce que les adultes ne paraissaient pas du tout s'intéresser à ces thèmes. Et c'est comme ça que l'idée est venue de créer des clubs de protection de la nature, et de mettre à leur disposition un journal de liaison, c'était la Hulotte. Les clubs, on en a eu beaucoup moins que ce qu'on imaginait, que ce qu'on espérait, et petit à petit, la partie réservée au club a fondu, s'est rétractée, et a été remplacée par une partie d'information sur les animaux, les fleurs, les arbres, et le journal a pris, disons, l'aspect qu'il a actuellement, d'informations sur la faune et la flore.
Qu'on peut se procurer uniquement par abonnement, c'est ça? Donc vous avez des abonnés très fidèles?
Oui, c'est un mode de fonctionnement qu'on a eu dès le départ. On n'avait pas les moyens du tout d'être en kiosque, puis de toute façon c'était un tout petit journal qui paraissait dans un seul département. Donc on a gardé ce fonctionnement par abonnement. S'abonner à la Hulotte, c'est recevoir les 6 prochains numéros, bon, qui tombent quand ils sont prêts. Il faut être patient, il ne faut pas forcément s'attendre à les recevoir à date fixe. Disons qu'en gros, il y a 2 numéros par an. Les bonnes années.
On est en train de grimper en haut d'une colline.
Voilà, alors ça c'est une forêt où il reste, bon elle est vide, c'est une espèce d'immense clairière. Il reste quelques arbres. Alors on va voir un des arbres étrange. C'était un peu le but du numéro que j'ai fait sur les petits mystères des grands bois. Je me suis aperçu en marchant en forêt qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on ne remarque pas et qui en fait sont très énigmatiques. On va en voir quelques-unes, des choses auxquelles on ne ferait pas forcément attention. On va voir.
Pour lire le présent numéro dans des conditions quasiment voisines de l'idéal, nous recommandons expressément la méthode suivante. Partir à la recherche de la forêt la plus proche de votre domicile. N'entamez votre lecture qu'après vous êtes confortablement assis dans l'herbe, le dos appuyé contre le tronc rugueux de notre héros, l'arbre. Les arbres fourmillés. Petit mystère des grands bois. Dans votre forêt tout près de chez vous se dissimule sans aucun doute, immobile au milieu des troncs, quelques-uns des arbres les plus énigmatiques de France, les arbres fourmiliers. Ils tirent une langue interminable, longue comme ça. Qui sont-ils? D'où viennent-ils?
Alors si on se retourne, donc, cet arbre-là.
Ah oui.
Une forme assez fabuleuse. Alors voilà, c'est typiquement un petit mystère. Alors, il faut se représenter ce que c'est. C'est un arbre. C'est un être reconnaissable à son écorce grise, très lisse. Et qui, vous voyez, est tout courbé. Le tronc part du sol et fait un arc de cercle. Et sur cet arc de cercle, on voit tout au bout quelque chose qui ressemble à une grande langue toute droite qui se redirige vers le sol, un peu comme une langue de fourmilier. Et sur son dos, il y a 4 troncs qui poussent vers le ciel. Alors ça donne une forme assez étrange, énigmatique, d'autant qu'on voit, vous voyez, une espèce de petit œil à la base de la trompe, un œil rêveur, un peu perdu, qui donne un aspect presque animal. Alors ça, ce type d'arbre, c'est ce qu'on a appelé les fourmiliers, parce qu'ils sont tous construits sur le même modèle. Mais maintenant, qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà, c'est typique.